RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, comme la saison dernière, le retour des beaux jours sur la Charente-Maritime coïncide avec la résurrection du Stade Rochelet. Après un hiver chaotique, les hommes de Ogara se sont donné ces derniers jours des raisons de croire encore en une qualif pour les phases finales en décrochant deux succès d'affilée. Le premier à la maison face à l'UBB, le second en terre hostile sur la pelouse des Mégirales, c'était ce samedi. Alors rien n'est encore fait, loin de là, mais l'espoir fait vivre et surtout revivre des supporters dont le moral était tombé au plus bas au cœur de l'hiver. Supporters des bannières. Des bagnards, ils le sont, mais ce sont avant tout des journalistes sans concession. Wilfried Templier et Roxane Lacusca ont usé leur fond de culotte sur les sièges de Des Flandres, n'est-ce pas, monsieur dame?
Tout à fait. Enfin, moi, pour un tout peu. Dire, j'étais abonné en pelouse, donc j'étais debout.
Ah, t'étais là, debout.
J'étais pas sur les sièges.
T'étais vraie de vraie, quoi.
Une vraie
alors
de vraie.
Que, ah ouais. Alors que Will était dans les tribunes, tranquille, bien installé.
C'est parti du pesage.
Tout à fait.
Avec toute la famille.
La famille était dans les gradins derrière moi. J'étais toute seule.
Ah, t'étais une ultra, en fait.
Ah ouais, t'étais une ultra.
T'étais une ultra. Parfait. Et ben voilà, c'est, on apprend des choses. Ça va, vous avez retrouvé le moral ces derniers jours? Ça va mieux, Roxane, Will?
Écoute, je l'avais annoncé dans l'apéro des poteaux que je sentais que La Rochelle allait faire quelque chose à Perpignan et qu'on avait le droit au bonheur, nous aussi.
Mais c'est on va parler du contexte de ce match aussi. Hein. Du contexte et du contenu, pardon, ce match.
Bien sûr.
Oui, exactement. Bon, on va y revenir, évidemment. Pour vous apporter un peu de contradiction, je compte évidemment sur Denis Charvet et ses critiques acerbes. Hein, salut mon Denis.
Oh, j'ai pas vraiment à critiquer La Rochelle en ce moment.
Ah, en ce moment non, mais il s'est passé des choses quand même durant l'hiver.
Ah, ils ont fait, mais trop de blessés, les pauvres. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures.
Exactement. Et puis, également parmi nous aujourd'hui, un garçon qui, depuis de nombreuses saisons, suit au quotidien les affaires des Maritimes pour le journal Sud-Ouest. Benjamin Dedon est l'invité des poteaux aujourd'hui. Salut Benjamin. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir. Bonjour tout le monde.
Voilà. Donc, pour évoquer la situation de La Rochelle et tout ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an maintenant. Des jours heureux, le Stade Rochelet en a donc connu un paquet depuis son retour dans l'élite, c'était en 2014. Deux finales de top 14 disputées, mais aussi trois demi-finales et surtout deux Champions Cup remportées, qui nous faisaient croire que le club à la Caravelle était installé pour toujours ou presque au sommet du rugby français, oui. Mais en quelques mois, les Rochelais sont tombés de haut.
Ils vont la sortir avec James Ossassor. La Rochelle est champion d'Europe pour la deuxième fois. La Rochelle, c'est un grand exploit ici à la Viva. Qui le cru?
C'est tenu le tabac.
Le tabac qui est passé.
Oh là là, il va la
laisser.
Il va la laisser. Il va la laisser.
Il a crucifié La Rochelle. C'est pas loin qui enterre La Rochelle sur une contre-attaque. Emilien Gailleton. Et c'est terminé pour La Rochelle qui va sortir des 6 définitivement, qui ne sera pas en phase finale.
Voilà, toujours difficile quand on a connu les sommets de retomber dans le ventre mou du classement. La Rochelle qui s'est inclinée à 11 reprises en championnat cette saison et qui n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de Champions Cup, ne gagnant qu'un seul de ses 4 matchs. Le bilan, Wilfried, n'est pas bien folichon, loin en tout cas des standards des saisons précédentes. Hein. C'est vrai, il faut bien le reconnaître.
Bah oui, parce que en jetant vraiment un coup d'œil dans le rétro, dans les classements, même au même moment de la saison, on voit que la courbe elle tombe. Hein, si on fait aller sur le post-Covid, La Rochelle après 21 journées était 22 même pardon, était deuxième en 20-21, quatrième en 21-22, deuxième en 22-23, avec à chaque fois des places en phase finale, finaliste, barragiste, finaliste. Avec 22-23, 23-24, avec des titres de champion d'Europe, on se les remémorait. Et puis ensuite, ça fait 6e, 8e, 8e actuellement, même s'il y a encore un espoir de qualification cette année. Il faut reconnaître que petit à petit, La Rochelle s'est un peu délité ces dernières années. Deux, trois dernières années récentes, on va en parler, peut-être une digestion des titres, quelques erreurs peut-être sur le sur l'effectif parce que on a peut-être pas su assez se renouveler et puis bah je ce qui fait la force par exemple puisqu'on les prend toujours en valeur étalon du Stade Toulousain c'est de la remise en question, le savoir-faire justement de gagner mais aussi de durer. Bon, La Rochelle a pas su rester tout en haut et c'est même pas qualifié cette année en phase finale de Coupe d'Europe, a été reversé en Challenge Cup. Donc de passer de champion d'Europe à pas du tout qualifié, de donner deux premiers de demi-finaliste finaliste parce que chaque saison a pas qualifié aussi. Ça fait bizarre pour eux et c'est un vrai changement ces derniers mois.
Alors Benjamin, déjà la saison dernière, La Rochelle avait connu des heures compliquées en ne parvenant pas à se qualifier pour les phases finales malgré un printemps canon. Beaucoup estimaient qu'il s'agissait d'une saison sans, comme ça peut arriver à n'importe qui. Mais peu pensaient que l'affaire se reproduirait cette saison avec un recrutement de qualité, l'arrivée de Le Garec et Nuniashvili, deux garçons qui n'ont pas déçu, loin de là, mais qui finalement n'ont pas suffi pour redresser la barre. On va en parler, il y a d'autres raisons, comme le disait Denis tout à l'heure, avec une avalanche de blessures, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait deux années comme ça sans pour La Rochelle, même si tout n'est pas encore perdu cette année.
Non, on ne s'y attendait pas, mais on n'avait pas mesuré en fait, l'effet fin de cycle qu'on avait vu l'an dernier. On ne mesurait pas qu'en fait ça se prolongerait cet été, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a eu un bon recrutement l'été dernier, sauf que c'est trois joueurs en fait, hein, David Nuniashvili, Semila Givala et Nolan Le Garec, aussi talentueux soient-ils, c'est en plus des recrutements qui sont dans la ligne de trois quarts, mais en fait on se retrouve avec les mêmes problèmes que la saison dernière, c'est-à-dire un effectif vieillissant, en particulier devant, alors que c'était un pack qui martyrisait tout le monde sur sa puissance. Quand les gros porteurs ne sont pas là, alors il y a plein de raisons, hein, et notamment avec Winnie Antonio, mais enfin, quand ces joueurs ne sont pas là, le pack n'est plus le même. Le rugby a aussi changé. On voit que le rugby est beaucoup plus rapide. Maintenant, ça appuie beaucoup plus sur la vitesse. C'est un virage que La Rochelle n'a pas su prendre. Et effectivement, les problèmes entrevus l'an dernier, qui avaient failli être mis sous le tapis par une qualification in extremis, en fait, on perduré cette saison et ça pouvait pas être réglé en fait en un an. Et je crois que l'accélération qu'ils ont connue au printemps a fait croire qu'effectivement c'était des problèmes qu'ils pouvaient digérer. Et on s'est rendu compte que pas du tout en fait, c'était plus un trompe-l'œil qu'autre chose.
Ouais, mais on le voit cette année, c'est un peu la même situation, Roxane. Une fois que La Rochelle réintègre son équipe type, l'équipe se remet à gagner. Ça a vraiment été un problème de quantité de joueurs presque tout au long de la saison.
Oui, il y a eu un nombre de blessures assez énormes. On y reviendra.
On a atteint les 19 blessés au cours du mois de janvier, c'est ça Benjamin, je crois. Hein,
je sais plus, ils étaient à plus d'une une vingtaine, je crois qu'il y en avait 23 à une époque.
Ouais, et puis tout au long de la saison, je crois qu'il y en a eu une trentaine, c'est le confrère de l'équipe qui avait chiffré 38 blessés sur la totalité de l'effectif, au moins une fois dans la saison. Quoi. Ouais. Voilà.
Oui, et puis effectivement, tu le disais, après, quand tu retrouves ton équipe, forcément, ça va tout de suite mieux. On l'a vu quand Skelton était apte à jouer, dès qu'il était dans le pack, c'était plus du tout la même chose. Là, on a retrouvé notre ligne arrière, notre troisième ligne en tout cas, pardon, qui, pareil, est bien plus... qui apporte plus de garanties que ce qu'on a pu voir le reste de l'année.
Donc, c'est pas mal quand
on
même.
On a pu enfin utiliser Boudéon en troisième
ligne.
Elle
dit carrément notre. Hein.
Non, donc, mais oui, elle a notre. J'ai relevé notre, oui.
C'est l'ultra qui est invité aujourd'hui. On a invité Benjamin Dedon du journal Sud-Ouest et l'ultra
Roxane. Non, Roxane fait partie du staff maintenant. Non, mais non, ce qui veut dire que tous les effectifs ne sont pas au même niveau. Je pense que La Rochelle a une équipe extraordinaire, mais il n'a pas une profondeur
pas
de banc.
Le profondeur non, de banc de Toulouse.
De Toulouse, et encore, après, tu vois bien que Toulouse ou Bordeaux, quand il en manque 7-8 titulaires, ben, c'est difficile aussi. Donc, évidemment,
un peu moins pour Toulouse.
Quand tu as plus d'exigeurs comme Skelton, comme tu l'as dit, Roxane, ou je ne sais pas. Ben, tous ces internationaux, Antonio, c'est plus la même équipe. Donc ils en souffrent. C'est logique. Pour moi, c'est logique. Et en même temps, de se retrouver dans cette position aujourd'hui, c'est miraculeux.
Ouais, alors on a parlé de cette avalanche de blessures, beaucoup de blessures musculaires, Benjamin. Hein. Est-ce que le staff médical a sa part de responsabilité dans ce nombre de blessures qui a touché le Stade Rochelais ? C'est pas les seuls, évidemment, à avoir connu ce genre de problème dans tous les grands clubs aujourd'hui. Le rugby, les impacts, la vitesse et le nombre de matchs fait que y a beaucoup de blessés. Mais là, on a atteint des sommets avec La Rochelle. Est-ce que le staff médical s'est remis en question ? Est-ce qu'il a sa part de responsabilité selon toi?
Alors, il s'est remis en question, je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais à mon avis, la part de responsabilité, enfin à mon avis, Visiblement, la part de responsabilité est plus importante pour le staff technique et le staff prépa physique, en fait. Mm-hmm. Dès la préparation physique estivale, il y a eu, je crois, 9 mollets sur la simple intersaison, enfin sur la préparation de la saison. Donc déjà, c'est problématique et c'est pas forcément lié à ceux qui soignent, mais plutôt à ceux qui programment. Donc ça, c'est une première chose. Le responsable de la préparation physique est parti en février, si je me trompe pas, sachant qu'il avait annoncé qu'il partirait finalement cet été et non pas l'été prochain comme ce qui était prévu dans son contrat. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a, je disais, le staff technique, parce qu'en fait, même en blessé, c'est aussi parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits de prolonger des joueurs, je le disais, vieillissants. Et en tirant beaucoup sur la corde de ces joueurs-là, Ronan O'Gara n'était pas quelqu'un qui était favorable à des grosses rotations dans ses compositions d'équipe. Il a beaucoup tiré sur la corde de joueurs qui, en plus, ont un certain gabarit. Donc, ils ont eu beaucoup de chance pendant leur conquête européenne, ils ont eu très peu de blessés. Sauf qu'à un moment, disputer 5 finales sur 6 possibles en 3 ans, ça tire sur les organismes. Mmh. Et à un moment, quand ça commence à lâcher,
ils ont été loin,
on tire plus sur les autres
joueurs.
Ils ont trop joué, ils ont tiré sur les mêmes joueurs. Et quand il y en a qui se blessent, c'est toujours les mêmes qui écopent derrière, donc qui se blessent à leur tour. Et alors là, c'est une avalanche derrière. Donc, c'est pas que de la malchance tout de suite.
Mais est-ce qu'on sait si le... Pardon.
Non, mais quand on est trop joué, c'est aussi des matchs de très haut niveau. D'enchaîner des...
Ouais,
quand tu vas au bout...
C'est international aussi.
Non, mais c'est des matchs comme des matchs internationaux. Donc, c'est des gros matchs, si tu veux. Donc, l'accumulation de ces gros matchs fait que, à un moment donné, ton organisme, il ne suit plus.
Est-ce qu'on sait si le départ, c'est du toit, hein, c'est ça le préparateur physique qui était arrivé du Stade français, Benjamin. Est-ce qu'on sait si son départ, déjà un an avant, qui était prévu finalement en cours de saison, est lié à tout ça? Ou est-ce que c'est un sujet un peu sensible à La Rochelle, hein? Ça a été un sujet un peu sensible.
Alors c'est à la fois lié et pas lié. En fait, la question de son départ, donc là, l'été qui arrive, a priori, c'est lui qui avait une opportunité pour rejoindre les Stormers. Pour rejoindre les Stormers dès cet été. Et ça, c'était quelque chose, a priori, au niveau de sa famille. L'adaptation à La Rochelle n'a pas été si simple que ça. Donc, ça, c'est pas forcément lié. En revanche, sachant qu'il allait partir, vu les problèmes de blessures, effectivement, les dirigeants ont effectivement pris la décision de gagner du temps pour la suite. Et effectivement, si tout avait fonctionné comme sur des roulettes, je pense pas qu'il l'aurait invité à partir quelques mois plus tôt.
Et qui l'a remplacé alors ?
Pour l'instant, c'est en interne, c'est Jean-Baptiste Paquet qui a pris en charge la prépa physique. C'était l'ancien prépa des espoirs qui est monté dans le staff et qui gère un peu tout ça actuellement. Alors, on ne sait pas qui encore, si c'est lui qui remplacera ou si ce sera quelqu'un d'autre.
Du coup, pendant cette période, avec ce nombre de blessés incroyable, bien O'Gara n'a pas eu d'autre choix que de faire appel aux jeunes du centre de formation. C'était c'est la politique, hein, de toute façon, du Stade Rochelais depuis quelques années, de toute façon, de renforcer ce centre de formation. On n'a pas attendu qu'il y ait autant de blessés pour intégrer les espoirs talentueux, mais l'option, quand même, Wilfried a ses limites. Hein, je veux dire, même s'il y a beaucoup de jeunes talentueux, tu ne peux pas remplacer des cadors comme ça par des gamins et tu n'as pas toujours les résultats escompté, hein.
Bah, ils s'y sont pris peut-être un petit peu tard. Enfin, Benjamin infirmera ou confirmera ça, mais tous les clubs voient ce que fait. Je vais encore parler du Stade Toulousain, mais dans matière de formation et de chances données aux jeunes au moment des doublons, et ces jeunes ensuite intègrent l'équipe et intègrent les 23, puis des fois parfois le 15 de départ. Mais ils l'ont fait de manière assez massive à un moment, juste après ces victoires en Coupe d'Europe, au moment où le cycle, ça a été quelque chose de concomitant en fait, avec la prolongation de beaucoup de joueurs dans l'effectif, les joueurs qui avaient gagné, mais aussi peut-être des joueurs un peu à bout de souffle, et on a mis beaucoup de jeunes, donc on les jette un peu dans ce bain-là, et au final, y a des joueurs qui vont peut-être performer un peu plus, mais dans les mois ou les années à venir. Mmh. Si on dit Penverde, Kadouri, Kuntelia, Soutidze, Kanté Samba, qui fait énormément de matchs de deuxième ligne cette année, qui est un talentueux U20 en deuxième ligne, vous rajoutez Angie Serramachi, Jurt, qui arrive aussi, Dani Boukou, qui a pas eu de chance, le centre, qui s'est blessé, puis Boss Morin, Boulanger. Il y en a, bon, il y a différentes évolutions dans tous les noms que je viens de vous donner, mais ces jeunes-là, je sais pas ce qu'en pense Benjamin, mais ont dû faire leurs preuves très vite et on n'appréhende pas comme ça le très haut niveau, le top 14 et la Coupe d'Europe d'un claquement de doigts, quoi.
En fait, ils l'ont fait contraint et forcé. Ça vient au départ d'une erreur de stratégie du club qui, voyant qu'il gagnait deux titres européens consécutifs, faisait des finales de top 14, s'est dit, on a une génération dorée, on va la prolonger, on va lui donner les clés. Donc, pour la prolonger, ça leur a coûté de l'argent. Donc, ils ont réduit le nombre de contrats pro et ils se sont dit, bon, cette génération est super, de toute façon, on complétera avec des jeunes. Sauf qu'en fait, là où tu parlais de regarder Toulouse, les gens regardent Pau aussi, hein, où effectivement, ils avaient quand même pas mal de contrats pro tout en donnant leur chance aux jeunes. Et on se rend compte qu'effectivement, en choisissant un effectif pro réduit et des jeunes, ça marche pas. Parce que quand effectivement les pros sont pas disponibles, les jeunes ne peuvent pas performer. Ils ont besoin d'avoir des soldats à côté d'eux pour les accompagner. Et c'est l'erreur qui a été commise il y a un an et demi maintenant. Et ils sont en train de rattraper ça avec un recrutement un peu plus quantitatif, on va dire, pour accompagner ces jeunes. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes de qualité, mais qui ne peuvent pas à 23, je pense notamment aux premières lignes, mais même les autres. Enfin, il leur faut des mecs à côté pour les accompagner sur les doublons. On l'a vu en challenge, en Ulster, les jeunes ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas tenir la baraque tout seuls.
Ouais, c'est la différence avec le Stade Toulousain, oui. Denis, qui là, effectivement, intègre des jeunes, mais il y a toujours les soldats, les vieux grognards qui sont présents.
Il y a toujours une base au Stade Toulousain. Tu as 5-6 joueurs d'expérience qui encadrent les jeunes. C'est ce qui fait la différence. Ouais. Mais ils ont l'habitude au Stade Toulousain, donc ce n'est pas un souci. Et puis d'abord, ils ont la force d'avoir un centre de formation.
Le centre de formation est quand même reconnu comme
le meilleur en France.
Wilfried. Et je crois qu'il y a un classement d'ailleurs qui est établi tous les ans.
C'est ça. Ils ont le meilleur centre de formation. Résultats sportifs, résultats scolaires. Il y a toute une combinaison de ça. Nombre de matchs, de minutes jouées en équipe première. Et voilà.
Puis un réservoir fantastique. On est quand même dans le sud-ouest.
Wilfried,
même si La Rochelle draine tout autour de région. De lui, je veux dire, c'est le seul club quand même dans la région. Il y a beaucoup de pratiquants de rugby, Roxane.
Oui, mais après, c'est ce que disait, par exemple, quand on a fait notre épisode sur la section paloise, Julien Landry nous disait, c'est vrai que dans le Béarn, vous regardez, il y a des clubs de rugby absolument partout, ce qui est peut-être quand même un peu moins le cas dans une région comme celle proche de La Rochelle, qui est de base pas tellement une terre rugbyistique, moins que dans le sud-ouest. Bah
non, mais t'as les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées.
Oui, ils viennent de loin.
Voilà, c'est un bassin avec une culture rugby, les tontons, les papas, les fils, les neveux, tout le monde joue au rugby. Mais c'est moins le cas. La Rochelle, oui, doit aller chercher des joueurs plus loin, mais c'est moins le cas, avec tout le respect qu'on a pour le rugby dans le coin, dans les Deux-Sèvres, Poitiers, tout bien ça. Même si Boudéan vient de Angers.
Oui, donc, mais bon, ça reste quand même assez loin de la région de base.
Wilfried,
quand même obligé d'aller ratisser assez loin.
Assez loin à Angers quand même.
Wilfried, j'aurais, par rapport à la formation justement au Stade Toulousain, est-ce que tu penses qu'il les forme davantage au très haut niveau, très vite, par rapport à d'autres clubs? Je parle des jeunes de 20 ans qui arrivent et qui s'imposent tout de suite. Donc il n'y a pas ce même phénomène dans les autres clubs, c'est ça qui m'interpelle.
Mais le truc, c'est que ils sont très vite mis dans le bain. Enfin, chez les un peu, je parle des espoirs, hein, tout ça, quand ça arrive en junior, espoir à 17, 18, 19 ans, il y a beaucoup d'entraînements communs maintenant, il y a une trame, et Benjamin a peut-être nous expliquer que La Rochelle s'est mis aussi à faire ça, hein, une trame de jeu commun avec les entraîneurs des espoirs du Stade Toulousain font partie du staff de l'équipe première et tournent. Ça a été une époque Poitronneau et Bouillou qui entraînaient les espoirs, après là c'est Keino et David Mélé, et donc il y a les entraînements communs, on s'entraîne à 50, à 60, et les joueurs viennent goûter à cet entraînement de l'élite. Et il me semble, Benjamin, qu'on est en train de faire ça aussi à La Rochelle avec Sazi, par exemple, qui a été l'exemple, qui a entraîné les espoirs.
Oui, alors je tempérerai un peu quand même tout ça, parce que depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez beaucoup de Toulouse. Je crois que c'est une erreur qu'a fait le Stade Rochelet et que.
Et vouloir se comparer à Toulouse.
Il ne faut pas comparer à Toulouse, en fait. Le Stade Rochelet, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand même, la Charente-Maritime, il y a autant d'habitants que dans l'agglomération bordelaise ou l'agglomération toulousaine. Donc déjà, on est sur un département qui est très peu peuplé. Le Poitou-Charentes, c'est pareil, donc il y a très peu de clubs. Donc déjà, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'effectivement, La Rochelle s'est cru à un moment un peu le rival toulousain, pas seulement en termes de résultats, mais en termes structurels, sauf que le Stade Toulousain, c'est plus d'un siècle de très haut niveau. Mmh. C'est un club qui est habitué à générer ses propres joueurs, qui est une référence mondiale. La Rochelle n'en est pas là. Et le Stade Toulousain, on parle beaucoup de sa formation, mais récupère énormément de très bons joueurs dans les catégories Krabos. Et quand le Stade Toulousain se positionne sur un jeune de moins de 17 ans, de moins de 16 ans, pour le rejoindre, il est beaucoup plus attractif que des clubs comme le Stade Rochelet, moins Pau ou Bordeaux maintenant, mais enfin c'est une réalité, c'est difficile de comparer. La Rochelle, le Toulouse a énormément de jeunes très talentueux et du coup peut effectivement mettre en place des choses, des passerelles entre les différentes équipes. La Rochelle n'en est pas là. La Rochelle a quand même pas mal de joueurs qui sont issus de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et qui n'ont pas le niveau des joueurs du Sud-Ouest. Donc ça, c'est un premier élément. Alors effectivement, La Rochelle veut mettre des passerelles en place entre ses entraîneurs. Entre ses effectifs, mais elle n'a pas la qualité, elle n'a pas autant de très bons jeunes, donc c'est difficile de faire les mêmes choses que le Stade Toulousain, qui a un réservoir absolument ahurissant. Ouais.
Il faut peut-être être meilleur aussi, alors, c'est la question que je vous posais, en recrutement de jeunes. Alors c'est facile quand on s'appelle le Stade Toulousain et qu'on arrive avec Ntamack ou Casalbou.
La concurrence de Bordeaux aussi,
sauf que à La Rochelle, où sont les Bielbiaré, où sont les Gazzotti, où sont les Ferté, voilà, des joueurs, des bonnes pioches, mais qui ont été cherchés en Pro D2, hein, tout simplement. Donc, pense qu'il y a une amélioration à faire.
Le centre de formation de Bordeaux, parfois, on se moque en disant que c'est Grenoble, parce qu'effectivement, Bielbiaré, Gazzotti, tout ça, c'est des joueurs qui viennent de Grenoble.
Oui, mais qui auraient pu venir à La Rochelle, il a raison, Wilfried.
Complètement, mais c'est vrai que Le président Laurent Marty a souvent recruté des joueurs très prometteurs. C'est quelque chose qu'il a compris depuis longtemps et qui allait chercher dans les équipes jeunes.
Il y a un problème de détection, forcément.
Il manque de scouts, de bons scouts à La Rochelle.
Il y a un problème de détection, non, Benjamin?
C'est possible. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ils sortent des jeunes aussi. Par exemple, on a parlé de Paul Boudehan. On parle de Louis Penverne qui sont allés chercher en Bretagne. Ils ont aussi formé Oscar Jégou. C'est vrai qu'ils n'ont pas des trois quarts aussi performants, on va dire, que dans les autres clubs. Mais par contre, ils les ont devant. Parce qu'on peut parler d'Oscar Jégou, on peut parler de Luca Angi Serramachi, on peut parler de Louis Kedia Penverne, on peut parler d'Alexandre Kadouri.
Là, il y a un gros potentiel.
On peut parler de Nicolas Sutidze, on peut parler. Enfin, ils sont allés chercher des jeunes. Alexandre Kuntelia. Doni Vuku, alors lui, il était dans le département, donc c'est encore aussi, c'est pareil. Mais en fait, ils en ont, ils sont moins visibles pour l'instant parce que c'est beaucoup de première ligne. Mais par exemple, Alexandre Kuntelia, qui a 23 ans, qui a un pilier droit, qui est très, très prometteur à cet âge-là, qui a déjà plus de 50 matchs de top 14 derrière lui. Donc, ils ont des jeunes, ils sont moins visibles que les autres, effectivement, en termes de vitesse, mais ils ont des jeunes vraiment très, très intéressants.
Ah, ils ont essayé avec Pacôme. Recruté à Colombier, c'est un peu la première année un peu difficile pour lui entre blessures et matchs un peu plus compliqués.
Après, tu peux tomber sur des bonnes pioches et un peu moins bonnes pioches ou des pioches un peu plus longs qui mettent un peu plus de temps à confirmer. Alors, on parlait des entraîneurs, des anciens joueurs qui intègrent le staff. On a parlé de Romain Sazi. Il y a aussi maintenant le cas Winnie Antonio qu'il a fallu remplacer dans l'équipe. Benjamin, on rappelle l'importance qu'avait ce joueur au sein de l'effectif, non seulement pour ses qualités physiques, ses qualités de rugbyman, mais aussi pour son côté leader de vestiaire. Ça a été un vrai choc pour l'équipe de remplacer ce garçon et les malheurs de Winnie ont vraiment touché l'ensemble du club.
Déjà, il est irremplaçable en fait. En termes d'aura, en termes de poids dans le vestiaire, très clairement, les Rochelais savent qu'ils ne pourront pas remplacer un tel monstre, là, dans le monstre sacré, hein, dans le sens noble du terme. Parce que non seulement, effectivement, sur le terrain, même si ces derniers mois, il n'était pas aussi dominant qu'il avait pu l'être, enfin, c'était quand même quelqu'un de très respecté par les adversaires, par les arbitres. Qui amenait quelque chose sur le terrain qu'on ne peut pas trouver comme ça, mais dans le vestiaire, dans le club, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a une aura, mais je crois qu'à La Rochelle, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi, je ne suis pas d'ici, mais je n'ai jamais perçu une telle puissance d'aura, vraiment, c'est le mot, quoi. Et donc, ça a touché vraiment tout le monde, parce que c'est un mec qui est adoré au club, qui amène une sérénité, qui est capable de faire rire tout le monde quand la tension monte, mais qui est aussi capable de dire « là, maintenant, tout le monde se tait, parce que là, c'est grave. » Et alors là, quand ça arrive, le peu de fois où c'est arrivé, on me l'a rapporté, plus personne ne parle dans la pièce, hein, que ce soit les coachs ou les joueurs. Donc effectivement, ça a eu un impact dévastateur à l'intérieur, en interne. Ronan Angara,
les mecs de 150 kilos parlent, les autres se taisent.
Il en parlait encore samedi, Ronan Angara, en disant « on ne perçoit pas la difficulté de la digestion de sa retraite soudaine.
Moi, je pense qu'on sous-estime, sous-estime vachement l'impact que ça a eu cette saison, la retraite anticipée de Winnie Antonio, qui est arrivée en fin d'année civile, fin 2025. Ça correspond un peu au moment où La Rochelle aussi commençait à plonger cette saison. Et je pense que ça a été vraiment très dur.
Même si, effectivement, comme le disait Benjamin, au niveau rugby, c'était plus tout à fait le même que l'année
précédente. Oui, mais ça dépasse, c'est ce que disait Benjamin, ça dépasse le cadre rugbystique, je pense, à la fois. Et puis même dans le public, je pense que ça a rassuré aussi tout le monde de le savoir de retour. C'est vrai qu'il a loupé le début de saison, il était blessé. Il était déjà dans le staff à cette période-là. Mais quand il est revenu, ça, on a un peu eu un ouf de soulagement, je pense, à la fois chez les supporters, mais aussi peut-être dans le vestiaire.
C'est un garçon que vous voyez justement prendre de l'ampleur au sein du staff de La Rochelle. Est-ce qu'il a le profil pour devenir un jour le patron technique?
Le profil, il l'a, évidemment. Après, c'est l'envie. Je pense qu'il a les deux sont en lui et il a envie de s'investir. Je pense qu'on peut le voir pourquoi pas en équipe de France un jour, s'occuper des hommes.
Manager, je sais pas, c'est quand même quelque chose, un métier vraiment particulier.
Je parle pas de manager, moi je parle de niveau de la mêlée, entraîneur de devant.
Mais tu vois, Christophe disait de devenir le patron.
Jusqu'où peut-il aller, quoi?
Je sais pas, parce qu'il faut en avoir vraiment l'envie, faut être fait pour ça, c'est un autre métier, voilà, être entraîneur dans le staff Rochelet, ou tu parles d'équipe de France, pourquoi pas, mais et apporter tout son savoir, Benjamin parlait d'aura justement.
Après,
de
il va savoir, peut-être qu'il peut se révéler, après on ne sait jamais.
Patrice Colazo m'a dit qu'il avait la possibilité, enfin qu'il le voyait s'inscrire plus que en tant qu'entraîneur des avants, que simple entraîneur de la mêlée, et il m'a dit qu'il peut être le futur manager du Stade.
Ah ouais, regarde, ouais. Tu vois, donc oui, il peut se révéler. C'est un gars qui ne fait pas de bruit depuis, enfin qui est. Mais qui a du caractère, qui a de l'autorité, qui est
incroyable.
Non, mais je veux dire, il a tout.
Ce qu'on mesure pas, c'est son réseau.
Ouais. C'est qu'en plus, on parlait tout à l'heure de réservoir à La Rochelle.
Ah oui.
Ça peut permettre quand même d'attirer du monde, d'avoir Winnie Antonio.
Mais il suffit de voir
à la fin
des matchs.
Après, il faut bien s'entourer, Benjamin, parce que sans dénigrer Winnie Antonio, avoir une tête pensante au niveau du jeu, vous savez très bien que c'est important maintenant. Je ne sais pas si Winnie Antonio s'est complètement plongé là-dedans, même quand il était joueur, avec une réflexion avec les autres. Après, comme tu dis, le réseau, l'oral.
Et puis moi, même au-delà de ça, je trouve que il faudrait qu'il s'inscrive, en tout cas à La Rochelle. Il a une telle aura, une telle histoire avec ce club et avec cette ville que je pense que. Oui, non mais tout à l'heure, Denis parlait de 15 de France.
En plus, il a un bar, un restaurant à l'île de Ré, non?
Oui, ah, oui. C'est à Rochelet maintenant.
C'est à Rochelet, mais c'est l'emblème de la ville.
Oui, surtout cette île de Ré. Les gars, tu vas arriver à l'île de Léron maintenant.
Non, si, il y a un ancien de Stade
Rochelet. Mais moi, je le vois bien. Franchement, je sais pas, c'est un.
Ouais.
Personnellement, je vois qu'il pourrait s'imposer dans ce rôle-là de manager.
Bon, ça veut dire
que.
Mais
en tout cas, ça a été brutal quand même. Voilà. Ils ont été orphelins de. Ils sont orphelins de lui. On parle au passé, non, mais ça s'est passé là, en fait. Donc, c'est vraiment brutal.
Sa
domination au poste de pilier. Droit, c'est le pilier droit de l'équipe de France, Winnie Antonio. Donc La Rochelle a perdu ça, a perdu un patron, un leader de vestiaire, a perdu un guide. Donc il faut le remplacer.
La Rochelle et l'équipe de France, parce qu'il était aussi un membre éminent des Bleus. Alors, du coup, vous voyez peut-être Antonio prendre des responsabilités. Quid de O'Gara, Benjamin? Ronan O'Gara, je crois que son contrat avait jusqu'en 2027. Au cœur de l'hiver, certains ont pensé qu'il pourrait peut-être anticiper son départ, qu'en est-il? Est-ce que la prolongation est toujours possible? Est-ce qu'il va rester le manager de La Rochelle la saison prochaine et les saisons d'après? Qu'est-ce qu'on en dit?
Moi, j'ai pas l'information officielle. J'ai pas l'information officielle, mais a priori, il a une proposition de prolongation de contrat sur la table. On parle d'une prolongation de 3 ans. C'est plus au niveau de. Je pense que il faut plus s'attendre à des évolutions dans le staff, en fait, un peu comme ce que faisait Guy Noves, qui restait sur la durée, mais qui changeait ses adjoints au fur et à mesure. Je pense que c'est plus vers ça qu'il faut s'orienter. Ronan O'Gara dans toutes ses interventions. Non, mais après, ça peut être par exemple un Romain Sazi dans le staff. Parce qu'on parlait de Winnie Antonio, mais il y a aussi Romain Sazi qui, lui, pour le coup, s'est plongé un peu dans ces histoires de manager, qui a construit vraiment son après-carrière d'entraîneur. Donc lui, ça pourrait être, pourquoi pas, là, c'est un tandem Antonio-Sazi qui se connaît par cœur et ils sont amis depuis longtemps. Mais pour en revenir à Ronan O'Gara, effectivement, il a la confiance de ses dirigeants, qui n'oublie pas que c'est avec lui qu'ils ont gagné les premiers trophées de l'histoire du club. Et effectivement, après, c'est plus, voilà, comme je le disais, peut-être des évolutions dans le staff pour accompagner. Parce que c'est un vrai. C'est quelqu'un qui est capable de porter un groupe, mais qui, par contre, a besoin d'être entouré. Quoi. C'est
vraiment, moi, j'y crois à la seule condition qui régénère le groupe. De joueurs.
Oui, c'est ce qu'on va parce en parler.
S'il n'y si a pas ça, je me dis qu'il faut qu'ils tournent la page. Ouais.
C'est l'erreur qui a été identifiée. C'est une erreur qu'ils ont identifiée effectivement l'an dernier avec la saison ratée. Sauf que les contrats, les prolongations ayant déjà été engagés, en fait, on ne peut pas corriger ce problème, ce qu'avait connu Toulouse en 2017. On ne peut pas corriger ça d'un été sur l'autre. C'est pas comme au foot, on peut renouveler tout un effectif.
Ouais,
là, il faut du temps et ils attendent surtout 2027 où il y a pas mal de gros contrats qui vont s'arrêter de nouveau pour vraiment ramener quelque chose un nouveau souffle en fait.
Ouais. O'Gara qui en fin de saison dernière justement évoquait une fin de cycle pour son équipe, demandait à ce que les joueurs se remettent en question. Est-ce que lui s'est remis en question, Roxane, à ton avis, assez remis en question
là, j'aimerais bien le savoir.
mais c'est intéressant, oui. Ce que
dans le jeu, en tout cas, j'ai un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais j'ai quand même l'impression que on est revenu parfois, notamment en fin de saison dernière, pour regagner nos matchs sur la fin de saison, quand on enchaîne les victoires, de revenir à un jeu qui fonctionnait auparavant, là où on avait essayé de mettre un peu plus en place un jeu avec les arrières, etc. De se dire que finalement, La Rochelle, ça marchait devant, c'était peut-être pas très beau, mais c'est comme ça que ça marchait. Et que dans ce sens-là, on s'était un peu remis en question. Après, au final, on a revu un peu la même chose cette saison. Je ne sais pas si c'est vraiment remis en question. C'est difficile aussi, quand on a un projet, de tout remettre à plat et juste parce que ça ne marche pas.
Malgré tout,
après, on ne se refait pas. Hein. C'est, ouais. Voilà, il est le danger. Alors après, c'est qui le choix? Benjamin l'a dit, les dirigeants rochelais ont confiance au O'Gara. C'est lui qui a fait passer un cap au club. Enfin, un de ceux qui a fait passer un cap au club. Parce qu'il y a eu Serge Villas, parce qu'il y a eu Patrice Collazo avant. Mais lui, bon, il a fait gagner un club qui n'avait pas connu ça à ce niveau-là. Maintenant, c'est si vous ne prolongez pas O'Gara, qui est à sa place avec un tel pédigré et tout? Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein, les bons entraîneurs, ils sont souvent en fonction. Maintenant, je pense que, j'aimerais peut-être nous dire, mais si, Roxane, je pense qu'il s'est remis en question parce qu'on va le voir avec les contrats, les jeunes, le jeu. Il y a un changement quand même. Hein, il est obligé,
oui, autrement,
son groupe, il va trop tirer sur la corde de son groupe. Il l'a dit même, Benjamin, des fois, en prenant l'exemple d'Astoy. Voilà, c'est bon, il y a un petit peu de communication aussi chez O'Gara, des fois, à ce niveau-là.
Oui, pas toujours. Des fois, c'est un peu difficile à suivre. Mais il y a une remise en question, de toute façon, fatalement, puisqu'il n'a plus les mêmes joueurs pour jouer son jeu à l'irlandaise, taper sur la porte. Lui, c'est son expression favorite. C'est souvent, il faut taper sur la porte, à un moment, elle va s'ouvrir. Ces joueurs-là, il ne les a plus. Donc maintenant, on voit effectivement un jeu qui est plus porté sur la vitesse, hein, qui est le rugby qui gagne, hein, de toute façon. Donc il a remis ça un peu en cause. C'est un manager qui n'aimait pas trop utiliser les jeunes, qui disait les jeunes, ils doivent être prêts. Il a compris que maintenant, il fallait faire grandir ces joueurs aussi, ces jeunes. Donc, il a parfois la tendance à refaire les mêmes erreurs. On voit avec Antoine Astoy, tous les ans, il commence à le critiquer, et puis finalement, il l'encense, il le critique, il l'encense. Enfin,
c'est une relation
c'est
un peu
assez
toxique.
Compliqué, c'est assez difficile.
Oui, ouais, c'est le poste d'ouvreur, ce qui est un poste sacré pour lui aussi.
En plus, mais je pense quand même qu'il s'est remis en question, ne serait-ce que parce qu'il a été partie prenante dans la stratégie de prolonger les joueurs et de s'appuyer sur une équipe type et de vraiment essorer une équipe type. Ça, il nous l'a dit, hein, c'est quelque chose, il faut plus attendre à avoir ce principe d'équipe type dans les prochaines années. Bon, là, en ce moment, il remet tout le temps la même équipe, donc c'est une contradiction de plus. Mais je pense qu'il s'est quand même remis en question aussi, invité par les dirigeants à se remettre en question sur certains choix qui ont été faits. Donc effectivement, là, le renouvellement du groupe est déjà entamé. On voit des profils qui sont des joueurs pas forcément très connus, mais des joueurs de compléments assez solides pour accompagner les jeunes. Donc je pense qu'il y a une remise en question, effectivement. Et lui, surtout, paraît assez enthousiaste sur le principe de construire un groupe, ce qui n'avait pas été le cas, hein, puisque Wilfried l'a dit, mais en fait, il a récupéré aussi le travail de Patrice Collazo et de Jono Gibbs, qui ont fait énormément de travail. Donc lui, il avait récupéré un projet qui était qui était à son firmament, alors que là, maintenant, il faut relancer un projet, quoi. Donc, c'est une stratégie complètement différente.
Alors, on parlait tout à l'heure du recrutement de la dernière intersaison. C'est vrai qu'il a été limité en quantité, mais en qualité, en revanche, ça a été une réussite totale. Ignashvili, Le Garec, Wilfried, là, c'est vraiment des bonnes pioches, quand même. Ouais. Et on a même l'impression aujourd'hui que La Rochelle est un peu Le Garec dépendant, tellement ce joueur, quand il est là, quand il est là et pèse sur le jeu et de son équipe, c'est vraiment un joueur protégé.
On dit en ce moment, il y a un Stade Rochelais avec Le Garec et sans, hein, c'est clair. Bon, quand un joueur marque plus de 25 points à chaque match, évidemment, ça aide. Mais voilà, c'était une première partie du recrutement. Benjamin l'a dit, c'était trois joueurs de la ligne arrière, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant parce que on parle de joueurs d'effectifs vieillissants. Et Benjamin l'a dit aussi sur les fins de contrat à l'été prochain. Le club expliquait qu'ils étaient bloqués justement jusqu'à cette intersaison prochaine. Puisque vont quitter le club avec leur âge, Sklavik à 32 ans, Wardy 30, Latou 33, Douglas 37, Dillane 32, Cancorier 30, West 34, Antonio qui est parti 36. Pour des recrues, on va peut-être pouvoir l'évoquer, mais avec Fraissenon, c'est le pilier de Brick à 23 ans, Adélaïde, deuxième ligne de Colomiers, mais qui venait de Toulon, à 23 ans, Morat, le deuxième ligne sud-africain qui vient des Stormers, à 28 ans, McFarland, très bon deuxième et troisième ligne aussi des Saracens, bon, il a 30 ans, mais Twifou, on annonce Twifou, le 8 de Mont-de-Marsan, qui a 24 ans, Krill, très bon centre aussi des Stormers, qui a 27 ans, donc il y a vraiment
une
régénération.
Non,
mais très bon joueur. Ouais, enfin,
parce que le Krill, ensemble des Bocs, il est très fort. Hein.
Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, mais celui-là fait vraiment. On va mettre un peu de rouage aussi derrière dans les. Pour l'avoir vu plusieurs fois.
Voilà.
Ouais, c'est un régulateur. Et puis surtout, voilà, c'est de avec tous les jeunes qu'on vous a cités avant. Bah, il y a un gros excessif quand même dans l'effectif. Hein, c'est.
Là, on pourra supporter les 20 blessures par an, Benjamin. Là, par hiver en tout cas.
On n'en est pas là, on verra, mais effectivement, en tout cas, les jeunes auront des joueurs autour d'eux pour les.
Combien
les
de départs annoncés?
Bah, tout une dizaine.
Bah, non, mais t'as pas l'Aldrit, mais l'Aldrit, il part pas, l'Aldrit.
Non. Il est en contrat jusqu'en 2029. Non, il est en contrat jusqu'en 2029, Aldrit, comme Boudéan. Voilà, il faisait partie de la vague de prolongation qu'il y avait eu.
Et puis alors, justement, Greg Aldrit, on peut en parler, parce que là aussi, au cœur de l'hiver, on s'est dit, bon, c'est peut-être la fin du grand Grégory Aldrit. Et puis, lui aussi s'est remis en question, Benjamin. Il a perdu du poids, il s'est régénéré. Et là, on l'a vu encore ce week-end, quand Aldrit va, La Rochelle va. Hein, c'est aussi une sorte de baromètre de cette équipe.
Ah, complètement, le visage de La Rochelle n'est pas le même non plus, suivant que Grégory Aldrit est là ou pas. Mais effectivement, c'est un joueur qui a 29 ans, il a autant de sélections quasiment que Louis Picamol à la fin de sa carrière. Donc c'est un joueur depuis 2019, en fait, qui sa plus longue coupure, c'est 3 mois, et c'est quand il avait fait une pause après la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de grosses blessures, il n'a jamais eu de gros pépins, et c'est un joueur qui donne tout à 80... Enfin, pendant 80 minutes, qui se donne à 100%, avec un jeu très frontal. Donc effectivement, à un moment, lui aussi, essoré, je pense qu'il a eu besoin de... Enfin, ça fait 2 ans qu'il est effectivement moins bon. Mais ce qui peut se comprendre, parce qu'effectivement, lui, il donne tout depuis qu'il est arrivé, en plus, il n'est pas passé, lui, par un centre de formation. Donc depuis qu'il a 19 ans, il joue tout. Et c'est un être humain, donc effectivement...
Non, mais surtout son jeu est très énergivore. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être à 100% pour être dans l'excellence. Et là, il est revenu à son meilleur niveau. Oui, on le voit, il a perdu 3 kilos, je crois.
On sent que c'est match par match, Denis. Moi, je trouve, au revoir les matchs, on sent que ça c'est pas fulgurant, mais petit à petit, à chaque match, il coche des cases et c'est mieux. On oublie aussi son activité défensive. Il est souvent à entre 15 et 20 plaquages par match. Dans les rucks. Et petit à petit, on n'a plus le Aldrit. J'ai l'impression qu'il avançait de 30 mètres comme ça. Quoique, il arrive encore des fois à franchir. C'est moins le cas. C'est les mettre parcourus avec ballon. Ouais. Donc, c'est petit à petit
Grégory Patam disait aussi, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, mais c'est avec la difficulté que vit La Rochelle depuis un an et demi. C'est un leader, en fait, énorme aussi, et c'est un capitaine qui laisse aussi beaucoup d'énergie. sur les à côté aussi pour dans un club en difficulté. Et ça, ça pompe aussi.
Ouais, de remobiliser aussi tout le monde, oui, ça doit prendre un peu d'énergie.
D'assumer certains moments. Oui.
Autre grognard Rochelet, là, les nouvelles sont moins bonnes. C'est évidemment le cas Will Skelton qui s'est rompu le tendon d'Achille début juin. Début avril. Juin, oui, blessure gravissime, surtout pour un homme de son âge, de son tonnage. Est-ce que vous êtes optimiste quant à un retour de Skelton au plus haut niveau au milieu de la saison prochaine? C'est vrai que c'est un garçon tellement incroyable qu'on se dit pourquoi pas, mais c'est pas rien. Hein,
le talent d'Achille, c'est un an. Hein.
Il a 34 ans début mai. Hein.
Mais ça aussi, ça a été un sujet quand même, Wilfried, de cette utilisation de Skelton qui n'a pas pu jouer puisqu'il a été blessé, notamment qui est reparti jouer avec l'Australie, ce qui n'était pas prévu quand même quand ils l'ont prolongé, si je ne me trompe pas. Et ce qui forcément embête un peu le Stade Rochelet, puisque quand tu es privé, on parle depuis tout à l'heure d'une Le Garec dépendance, d'une Aldrit dépendance, mais Skelton, quand il est là, l'équipe, ce n'est pas la même non plus. Hein.
Là, il ne va pas revenir avant la fin de l'année. Hein.
Non, clair. Hein.
Oui. Là, c'est. Bon, il est en contrat, on a dit, jusqu'en 2028.
Ça veut dire que. Bah, oui.
Il ira au bout de son contrat, mais il va falloir sacrément retravailler pour lui. Peut-être ne pas avoir l'idée de revenir pour la Coupe du Monde en Australie, même si ça sera une motivation pour lui. Mais forcément, ça a été une vraie difficulté pour le Stade Rochelet que Skelton décide de retrouver l'équipe nationale, qu'il parte à faire des voyages au bout du monde, avec des dizaines d'heures d'avion.
Classe économique en plus, imagine.
Pour un gabarit comme le sien.
Pour un nombre de matchs. Je
suis sûr qu'il rentre dans les
sièges. Pas.
Je pense, Benjamin, qu'on a dû grincer un peu des dents. Enfin, on dit oui, c'est en accord. Ogara disait c'est en accord avec lui. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les dirigeants sur ces choix de Skelton.
Alors, Ronan Ogara, c'est sûr, lui n'a pas grincé des dents. Ses dirigeants, effectivement, c'est encore autre chose. Hein. Mais parce qu'effectivement, quand il le prolonge, il n'est pas question qu'il joue avec l'Australie. Donc, effectivement,
même quand il
est prolongé à prix d'or et pour finalement beaucoup moins en disposer que prévu. Maintenant, ça c'était quelque chose, effectivement, c'était un sujet qui devait être réglé. Lui-même, Will Skelton, me l'avait dit. Il m'avait dit il faut que ce soit géré intelligemment et que j'arrête de faire des allers-retours en une semaine pour aller en Nouvelle-Zélande. Ça, effectivement, c'était quelque chose qui avait laissé des traces. Maintenant, là, effectivement, avec la rupture du tendon d'Achille, vu son gabarit, vu son âge, je crois que le Stade Rochelet s'attend pas à le récupérer avant mars-avril de la saison prochaine. Donc, de toute façon, il prépare un peu la suite. Sans lui, et puis quand il reviendra, il sera temps de voir.
Il a joué 7 matchs.
Il sera temps de voir ce qu'il donnera maintenant. Moi, j'enterrerai jamais un joueur. Moi, j'enterrerai jamais un joueur avec cet état d'esprit-là, parce que c'est vrai que c'est. Déjà, il veut jouer la Coupe du Monde en Australie, chez lui, donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, c'est un mec à part quand même, donc j'attends de voir avant de m'enterrer.
Tu le crois souvent, donc on va pas le critiquer.
En plus. Il parle très bien français maintenant. Donc,
et il écoute les podcasts des poteaux, peut-être, donc
on
attention.
Le salue, c'est bon.
Alors, l'avenir à court terme pour La Rochelle, qui s'est donc donné des raisons d'espérer encore avec ses deux victoires consécutives.
Hein,
il y aura un match évidemment très important, ce sera face au Racing dans deux semaines. La Rochelle qui est 9e du top 14, 54 points. La qualif, elle est à 60 points. Il y a quand même du monde devant pour l'atteindre. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que c'est possible? Est-ce que une victoire au Racing sera suffisante? A priori, non. Il faut gagner quasiment tous les matchs pour espérer.
Moi, c'est mort.
Dans les 6. Est-ce que vous... Non, Denis, tu crois pas?
Non, pas du tout.
Denis, tu crois pas. Will,
trop de concurrence et de calendrier défavorable pour La Rochelle.
On a quand même Bordeaux-Bègles à 60 points, le Racing à 60 points, Toulon à 55 et La Rochelle à 54. Ça fait du monde quand même. Et puis devant, c'est pas mieux. Clermont, 61. Le Stade Français, 63. Bref. Roxane,
la cote est très élevée.
La cote est très élevée.
Est-ce que l'objectif, ça ne doit pas être finalement d'être dans les 8? Ce serait quand même plus.
Je pense qu'il faut garder comme objectif le top 6 parce que malgré tout, ça permet quand même d'engranger de la confiance si on continue de jouer comme ça et d'engranger des points même à l'extérieur. Et puis il y a un match à Montauban à venir qui devrait faire du bien aux têtes également. Une réception du Stade Français pour la dernière journée qui. potentiellement peut aussi permettre de finir sur une bonne note. Après, est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le top 6? Qu'on ait cet état d'esprit-là, évidemment. Après, si je parle d'un point de vue personnel, je pense que ce sera trop compliqué et que le top 8, ça sera déjà bien.
Il faut gagner au Racing, quoi qu'il arrive.
Mais si il gagne au Racing, il y a un Clermont-Racing, il me semble. Il y a un Bordeaux-Clermont.
Le Racing-La Rochelle vaut de l'or pour les deux équipes.
A priori, La Rochelle part de trop loin. Et puis franchement, si on peut aussi évoquer alors il y a du mieux dans
c'est
le
presque
jeu.
Un huitième de finale au Racing. Hein.
Ouais, La Rochelle est quand même la troisième, la huitième attaque, mais a des bonnes stats sur l'occupation du terrain, sur la possession, sur la. Il y a une certaine domination, mais ça s'illustre pas avec une. Il n'y a pas de 7 points. Vous savez, il y a 7 points par entrée dans les 22. Ouais, ils sont pas réalistes et ils sont parfois extrêmement fébriles. Pour ceux qui ont vu le match à Perpignan, c'est incroyable. Je pense qu'il devait à un moment, il devait pas y avoir match parce que c'est pas ce que Perpignan a proposé, c'est plutôt les contre-perpignanais qui ont fait mal au Rochelais, mais La Rochelle ne tue pas les matchs. Donc pour moi, La Rochelle n'est pas au niveau des 6 premières places. Maintenant, s'ils gagnent au Racing, s'ils enchaînent comme ça, ils sont à 3 victoires sur les 4 derniers matchs, je crois, pourquoi pas. Je pense surtout, et c'est une chose que la section paloise a très bien fait l'année dernière, ils ont fini sur 4 victoires et ils ont construit une partie de la saison
bien
actuelle.
Sûr.
Et c'est peut-être ce à quoi La Rochelle doit réfléchir.
Oui, mais enfin, La Rochelle avait terminé justement comme ça la saison dernière aussi, Will, mis à part la dernière défaite. Mais
autrement, pas qualifié.
Ouais, il ne s'était pas qualifié.
Ouais, il s'était pas qualifié quand même. Hein.
Ça paraît trop compliqué. Non, de toute façon, Ronan O'Gara ne parle que de top 8. Hein. Lui, il ne parle pas de top 6 pour l'instant. Je pense que les joueurs aussi se sont dit d'arrêter de calculer parce qu'effectivement, ça va leur mettre une pression et ils savent que c'est quasiment impossible. Mais effectivement, il faut déjà un peu, non pas préparer la suite, mais construire déjà des choses vraiment structurelles en interne, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent s'en servir. Ils vont recevoir Toulouse, ils vont recevoir Paris, ils veulent aussi briller devant leur public contre des gros, ce qui n'a pas toujours été le cas
cette
année.
Et ils jouent à Montauban. Voilà. Si le match au Racing, je pense que le Racing est favori sur le papier pour l'instant, parce que le Racing propose et le Racing favori.
Mais il faudra compter sur des défaillances devant aussi. Il ne faut pas simplement gagner, il faut compter, parce qu'il y a quand même 4 équipes devant, il faut compter que ces équipes-là s'effondrent. Donc c'est quand même un peu compliqué.
Ouais. Compliqué donc pour espérer aller disputer les phases finales de ce top 14. Il n'y aura pas de phase finale non plus, et on le sait, en Champions Cup. Donc il faudra attendre la saison prochaine sans doute pour connaître des jours meilleurs. Merci les poteaux d'être venus parler de La Rochelle. Je sais que ça fait plaisir à notre ultra à nous, Rochelle Lacusca, hein, qui parle de notre équipe, de nos joueurs.
Ouais, je ne suis pas objectif.
Ah non, tu n'es pas vraiment objectif. On va la renvoyer au pesage.
Je promets, j'arrive à être objectif sur le reste. Ne t'inquiétez pas.
Sur les autres clubs, t'es objectif, je suis pas sûr. Merci Benjamin en tous les cas d'être venu de partager ton savoir sur ce club. Merci à Wilfried évidemment. Vous l'avez entendu. Hein. Moi, chaque fois qu'on réécoute l'essai d'Entamac, je vois l'image de Wilfried, les larmes aux yeux. C'est
pas du tout.
Hein, Denis ?
Comment une action.
Oui, toujours.
Du début à la fin.
La Rochelle, Toulouse.
7 points. Voilà. C'est peut-être, on n'en a pas parlé, mais c'est une action qui a fait très très mal certainement à ce gros Rochelais aussi.
Mais cette année 2023, cette saison-là, 2023-2024, a fait énormément de mal, je pense.
D'un potentiel doublé à ce mal de tête après avoir loupé le bouclier de bonus pour la première fois de l'histoire du club. C'est peut-être ce qui a été très dur, très long à digérer aussi derrière pour La Rochelle.
Très bien, merci les potos. Rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer d'autres cas de figure de cette fin de saison. Bonne semaine, ciao.